France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit il fait froid ou on se caille, non, ils ont opté pour un mâchoire gelée, voilà, tout simplement. Mais bon, après moult exercices, ça y est, ils ont redécouvert l'utilité de cette mâchoire, même si ça aurait été quand même amusant. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la députée des Yvelines, Aurore Berger. Bonsoir.
Bonsoir.
De la République En Marche, j'avais oublié votre étiquette, mais je pense que maintenant on le sait. Rafik Smati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur et président du mouvement Objectif France. Également Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions. Et Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir.
De France Inter. Et ce soir, on parlera d'une journée sans Facebook, si c'est possible. De SNCF, les syndicats s'interrogent. Verbalisation du harcèlement de rue. Mais juste avant, on va parler justement des conditions climatiques pour une raison, puisque vous le savez, il y a 58 départements qui ont été placés en alerte orange, neige et verglas. Là, oui, ça fait des belles photos sur les réseaux sociaux, mais le froid a des conséquences dramatiques puisque 4 personnes sont décédées en France, 46 en Europe. Pour alerter sur la condition des plus précaires, ce soir, des élus franciliens ont décidé de passer la nuit dehors à Paris pour réclamer une meilleure prise en charge des sans-abri. Alors selon le gouvernement, il y a 145 000 places d'urgence à disposition en France, 700 à Paris, mais juste au départ, c'était une question qui nous a interrogé pour vous, Aurore Berger, est-ce que c'est le rôle des élus de se montrer comme ça?
Honnêtement, je suis assez étonnée de la démarche. C'est-à-dire que le rôle des élus, c'est de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas des personnes qui continuent à dormir dehors. C'est pas que les élus eux-mêmes aillent dormir dehors. Donc, dénoncer cette situation, je l'entends. Trouver des solutions, c'est mieux. D'ailleurs, on travaille avec les collectivités locales, avec la région notamment en Ile-de-France, puisque là, c'est des élus franciliens qui veulent le faire, pour construire des places d'hébergement d'urgence. On a continué à ouvrir beaucoup de places en hébergement d'urgence. Il y a en effet des places qui sont encore disponibles à Paris, on le sait. Il y a des maraudes qui tournent en permanence, on travaille avec le SAMU social. Donc honnêtement, moi je pense que c'est pas le rôle des élus, que c'est assez contre-productif.
Oui, c'est ça. Audrey Goutard, vous, est-ce que vous trouvez, voilà, est-ce que c'est le rôle des élus de montrer ça? On sait que
l'initiative était un peu... Pardon.
Oui, je
trouvais que l'initiative était un peu étonnante parce que ça laisserait penser que la population n'est pas au courant et qu'elle n'est pas attendrie, si vous voulez, par la situation, puisqu'il faudrait l'alerter, etc. Moi, je pense que les gens sont tout à fait au courant, savent très bien, compatissent. Les Français le montrent souvent. Ils sont, on voit, nous, dans nos reportages, des gens qui, en pleine nuit, viennent apporter de la nourriture, aident les SDF, aident les associations. Donc les Français ne sont pas égoïstes. Donc est-ce qu'il faut aller les dénoncer? Moi, je suis assez d'accord avec Aurore. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut surtout agir.
Rafik Smati, ça permet, eux, ces élus disent, c'est pas seulement avec la fin du froid qui arrivera cette semaine qu'il faut s'intéresser aux sans-abri ou aux plus précaires. C'est-à-dire que ça continue aussi ces gens-là, malgré le froid, ils n'ont toujours pas d'abri.
Alors ça, en effet, c'est un vrai point qui est important. Je discutais avec le responsable d'un centre d'hébergement à Nanterre qui me disait qu'il y avait plus de morts hors saison, si je puis dire, notamment au printemps et en automne, justement parce que on est moins structuré, puis parce qu'il y a des écarts de température qui sont plus importants qu'en hiver. Écoutez, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à la gestion des SDF. C'est pas un sujet facile. Je crois que personne n'a la solution. Dire qu'on arrivera à zéro SDF, certains l'ont essayé et personne n'y est arrivé. Donc moi, je comprends que devant ce désarroi d'une société qui n'arrive pas à loger tout le monde, il y a des personnes qui tentent des choses. Alors, on peut dire que c'est un coup de com', mais c'est une façon comme une autre d'éveiller les consciences et de dire que ça ne peut pas durer. Les Restos du Cœur, c'était il y a 30 ans. On n'a pas le droit d'avoir froid et d'avoir faim. On y est encore aujourd'hui. Donc,
qu'il n'y a pas de solution ou qu'en tout cas on ne peut pas régler le problème, c'est totalement faux.
Non,
En Finlande, par exemple, vous avez une expérience qui fonctionne très bien. Le gouvernement à un moment donné dit c'est plus possible. Alors en plus en Finlande il fait très très froid. Hein.
Oui,
ils ont investi 250 millions d'euros, ne serait-ce que dans la capitale. Ils ont créé des maisons, ils ont créé des logements et aujourd'hui il n'y a plus de SDF dans les les rues.
Anthony Béranger.
Oui, puis je vous trouve bien sévère avec nos députés, après tout, s'ils ont envie de se frigorifier, en plus dans une des nuits les plus froides de l'année, pourquoi pas. Un député frigorifié est un député conscient, tant mieux. Ils auront comme ça une idée de ce que c'est que vivre effectivement au quotidien, quand le quotidien des SDF. On sait qu'aujourd'hui, ils sont 3000 dans les rues de Paris, puisqu'il y a eu cette fameuse nuit de la solidarité qui a permis de les compter, et pas 50, comme disait monsieur De Normandie. En plus, figurez-vous que moi, ça me paraît intelligent, ne serait-ce que pour faire prendre conscience aux gens d'une chose qui est très importante, c'est que la France est le pays d'Europe le plus concerné. Nous avons deux fois plus de SDF rapportés à 100 000 habitants que n'importe quel autre pays en Europe. Deux fois plus que l'Espagne, deux fois plus que la Grande-Bretagne, deux fois plus que l'Allemagne, trois fois plus que la Pologne. Donc il y a un moment, si vous voulez, que toutes les initiatives sont bonnes, histoire de faire prendre conscience que ce n'est pas une situation qui se reproduit depuis 30 ans, sur laquelle on ne peut rien faire, et bien c'est bien malheureux, et qu'il faut ouvrir des places d'urgence, qu'il y a des pays qui sont effectivement parvenus à résoudre la solution, et qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps, parce que c'est un problème français.
Aurore Berger, quand Emmanuel Macron a dit, voilà, là-dessus, on n'a pas réussi à le faire, est-ce que finalement, il ne s'est pas laissé piéger dans une promesse, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, comme l'a fait d'autres, en pensant que zéro SDF, c'était facile finalement à faire?
Non, je pense que personne n'a dit que c'était facile. Ni Emmanuel Macron, ni aucun président de la République, d'ailleurs, qui a pu lui précéder. Par contre, c'est un objectif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme objectif que celui-ci, qui est qu'en effet, plus personne ne dorme à la rue dans notre pays. On a aujourd'hui plus de places en hébergement d'urgence qu'il y a un an. De manière très claire, on les a augmentées. Et encore une fois, on le fait en plus avec des partenaires, avec les collectivités locales.
Il faut des logements très sociaux.
Oui, et on fait aussi des logements. C'est justement tout l'objet du projet de loi qui est présenté à partir du mois de mars et dont on va débattre. Et moi, je travaille justement dans ce groupe de travail sur la question du logement. Je vous assure que l'objectif de ce plan logement, c'est de construire plus. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, en Ile-de-France, on attend entre 6 et 10 ans pour obtenir un logement social. Donc, on a besoin de construire plus, de construire enfin ce fameux parcours résidentiel dont on parle depuis des années. Sauf que quand on n'a pas plusieurs typologies de logements, on n'arrive pas à créer ces parcours. Donc, c'est vraiment l'objet de la loi dont on va débattre.
Audrey Goutard.
Non, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que à l'initiative de ce projet, il y a Mamassi, une députée donc LR.
Ah, élue LR, en fait, de l'Essonne.
Voilà, élue LR. Moi, je vous rappelle que son patron, M. Wauquiez, disait que le cancer de notre société, c'est la Sistana. Donc effectivement, je trouve étonnant que tout à coup, on ait envie de se sensibiliser l'opinion publique plutôt qu'effectivement se remettre en question politiquement.
Allez, l'info à 20h10, c'est Noémie Bonin.
Plus de la moitié de la France en vigilance orange ce soir à cause de la neige notamment. Tombée dans le sud en quantité ce matin, elle se déplace vers le nord et l'ouest du pays désormais. Des restrictions de circulation sont mises en place comme sur la N118 en Ile-de-France. Les camions et les transports en commun sont interdits à partir de 22h ce soir. Aucun véhicule sur l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne. La 54 est également fermée en partie dans les Bouches-du-Rhône. Il va dormir derrière les barreaux ce soir. Un homme de 56 ans a été mis en examen aujourd'hui dans le Nord. Il revendique lui-même une quarantaine de viols. L'affaire remonte à la fin des années 80 et le dossier occupe les enquêteurs depuis 30 ans. Le défilé des politiques continue au Salon de l'agriculture à Paris avec Marine Le Pen notamment aujourd'hui. Plutôt bien accueillie par les agriculteurs, elle a envoyé de nombreuses piques contre Emmanuel Macron, mais aussi contre l'Union européenne et les accords de libre-échange. Laurent Wauquiez et Édouard Philippe ont eux passé leur deuxième journée aux côtés des vaches et des cochons. Et puis Chambly tient le coup ce soir face à Strasbourg en quart de finale de Coupe de France de foot. Il y a 0-0 entre le petit club de National et les Alsaciens 14e de Ligue 1. On en est à la mi-temps. Ce soir, l'OM affronte de nouveau le PSG 3 jours après sa défaite en Ligue 1.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, alors attention, petit point Académie française, ne dites plus harcèlement mais outrage, ne dites plus rue mais espace public, au cas où on n'aurait pas compris que ça concerne également les avenues, les ruelles, les routes, les chemins vicinaux et autres endroits où il y a du monde. Bref, on synthétise quoi. Tels sont les mots employés par le rapport présenté aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, à la ministre de la Justice et à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes concernant la verbalisation du harcèlement de rue. Il y a 23 recommandations et parmi elles, la création donc d'une contravention d'outrage sexiste et sexuel. Alors c'est une nouvelle infraction qui vise à sanctionner, je cite, les gestes déplacés, les sifflements, les regards insistants ou remarques obscènes, le fait de suivre volontairement à distance une personne, créant ainsi une situation d'angoisse. Alors cette amende, elle est d'un montant de 90€, et sans besoin pour la victime de déposer plainte, et il s'agit donc d'un des volets de la loi présente qui sera présentée en mars au Conseil des ministres. La secrétaire d'État, donc chargée de l'égalité homme-femme, femme-homme plutôt, Marlène Schiappa.
Il y a une autre étude qui nous dit, une étude IFOP Fondation Jean Jaurès, qui nous dit que 8 femmes sur 10, près de 8 femmes sur 10, ont peur quand elles sortent toutes seules le soir. Donc je crois que c'est la responsabilité des pouvoirs publics de créer un climat de sécurité et de protéger l'intégrité physique des femmes en disant noir sur blanc que les lois de la République interdisent que l'on intimide des femmes dans l'espace public.
Marine Schiappa ce matin sur LCI. Audrey Goutard, alors c'est concret, mais est-ce que ça reste pas symbolique parce qu'il n'y a rien dans ce rapport sur comment vont agir les forces de l'ordre?
Alors, ça va être, vous avez vu, un PV. La personne sera prise en flagrant délit de sifflement, par exemple, ou de harcèlement. Et effectivement, on lui donnera un PV de 90 euros.
90 euros et majoré 350.
Voilà. Bon, c'est compliqué parce que c'est bien de créer une ambiance culpabilisante. Dans la rue, autour de ça, que dans le métro, il y ait des affiches. Alors, si c'est accompagné, voilà. En fait, ce que je pense, c'est que si c'est accompagné de campagnes, comme vous savez, pour les crottes de chiens, quand on disait il faut ramasser, vrai, ça, voilà. Et ben ça a marché, parce qu'effectivement, tout à coup, les gens se sont vus, et ça peut créer des prises de conscience chez le type qui pense que c'est très rigolo d'insulter une fille ou de la suivre, etc. Donc si c'est accompagné vraiment de toute une campagne culpabilisante, je pense que c'est une bonne chose.
Est-ce que c'est pas compliqué quand même, Aurore Berger? On voit en effet que pris sur le fait, aller dénoncer auprès d'un policier, on imagine la complexité quand même de la chose, parce que aller dénoncer un sifflement, la personne pourrait dire bah non c'est pas vrai. Enfin voilà, on imagine que ça va être quand même difficile pour les forces de l'ordre de prouver
c'est
cette
pour
action.
Ça que
non,
c'est aussi beaucoup de flagrant délit. Oui. Mais vous savez, on disait la même chose, par exemple quand on a eu des lois qui encadrent, par exemple en cas de harcèlement moral, on disait comment vous allez vraiment réussir à le caractériser, à le démontrer et à pouvoir condamner. Mais au final, ça a fonctionné et ça permet aussi de changer un certain nombre de comportement. On a un changement culturel à opérer dans notre pays. On a encore une société qui est très patriarcale en France. On a 100% des femmes qui disent qu'à un moment, elles ont subi un harcèlement dans les transports. Beaucoup de femmes qui renoncent en effet à prendre parfois des transports en commun ou qui les prennent avec difficulté parce qu'elles savent qu'à un moment, il y a des hommes qui vont se frotter à elles, parce qu'il va y avoir des comportements déplacés, parce qu'il va y avoir du harcèlement. C'est ce que disait Marlène Schiappa. C'est pas normal qu'on ait 8 femmes sur 10 qui se sentent dans une situation d'inconfort, voire d'insécurité quand elles doivent aller dans l'espace public.
Et vous pensez qu'une loi peut changer c'est ça, justement?
Je pense que culturellement, oui, ça peut changer parce qu'on pose maintenant définitivement des interdits. On ne dit pas juste que c'est un vœu pieux, on dit que maintenant, on va sanctionner, que les policiers seront formés pour le faire et que ça tombera de manière immédiate.
Anthony Béranger.
D'abord, d'une part, on a un peu d'expérience. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. La Belgique l'applique depuis 2012. Des pays d'Amérique du Sud, d'ailleurs, l'appliquent depuis 2014-2015. Donc on sait que non pas ça, c'est pas que ça marche, c'est que dire l'interdit est extrêmement important. Surtout dans un pays comme la France où l'État a une espèce de valeur passive, vous dites patriarcale, enfin en tout cas où la population fait confiance à l'État, où la voix de l'État compte et où la punition, dire l'interdit, est une chose importante. C'est pas l'État, on ne s'en fiche pas en France. Ce que dit l'État, ce que doit, ce qui est bon ou mauvais, l'État qui fixe le tabou, c'est très important. Donc dire l'interdit et que ce soit l'État qui le dise, c'est important. Effectivement, ça marche aussi que s'il y a, vous savez, comme on dit ça dans les pays anglo-saxons, c'était name and shame, c'est-à-dire que si au fond, non seulement on dit l'interdit, mais on partage l'interdit. C'est-à-dire que chacun d'entre nous savons que c'est interdit ou que ça ne se fait pas. Et si on commence à avoir des complicités parmi les gens qui autour de vous voient. Parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait le fait de pas très bien distinguer, tout simplement parce que l'interdit n'était pas dit. Et qu'en plus, les gens ne voyaient pas très bien ce pourquoi est-ce qu'il faudrait intervenir. Donc là, l'État dit l'interdit. Et à nous de partager l'interdit et de name and shame, c'est-à-dire au fond, d'expliquer à quelqu'un qui sera un peu lourd qu'il est un peu lourd.
On peut comprendre aussi certains policiers aujourd'hui qui s'interrogent aussi sur la manière, la méthode, tout simplement, parce que eux, ils se disent, ça va pas être simple à prendre en flagrant délit quelque chose qui a été fait sur un simple témoignage. Ça va être difficile pour les policiers.
Oui, ça va être difficile pour les policiers aussi, s'il s'agit, ils feront leur boulot. Ils auront quelqu'un qui viendra les voir en leur disant, ce type m'embête, est-ce que vous pourriez lui mettre une contravention? Puis voilà.
Audrey Goutard. Il faut voir aussi que dans certains, parce que il y a des zones où effectivement les filles, moi j'ai fait des reportages par exemple dans certaines cités où les filles s'habillent en survêtement et en pull à col roulé parce qu'elles ont peur de se faire parce qu'il y a cette espèce de code comme ça, on siffle la fille, on la traite d'eux, etc. Les policiers des bacs par exemple qui circulent dans ces zones, effectivement leur donner une arme supplémentaire et leur donner la possibilité lorsqu'ils sont témoins de ça, parce qu'ils sont témoins de ça et que généralement ils n'interviennent pas plus que ça parce qu'ils savent pas très bien comment faire, ou alors ils disent au type arrête d'embêter machinette, etc. Là, ça leur donne la possibilité effectivement d'agir comme de donner une contravention comme on le fait pour une voiture mal garée.
Rafik Smati, c'est vrai que depuis cet automne, on a vu émerger de nombreux témoignages, il y a des noms qui sont sortis, il y a des mobilisations. Est-ce que vous pensez que ça passe par la loi? Justement, ça, est-ce que c'est un comportement qui peut être sanctionné, donc force, on va faire attention, ou au contraire, c'est la loi, c'est juste du symbole?
Je crois beaucoup plus en la sensibilisation collective. Par exemple, la décision du président de la République d'en faire, enfin de faire de la violence faite aux femmes une cause nationale, je trouve que c'est très bien. Et ça ne passe pas forcément par une loi. L'intérêt de la loi, dans une hypothèse telle que celle-ci, c'est que c'est un coup de com', parce que concrètement, rien ne pourra être appliqué réellement. Donc c'est de la com', mais c'est de la bonne com', parce que c'est de la com' qui va faire passer l'idée que certaines choses ne sont pas possibles. Et c'est bien. Mais en même temps, ce que je trouve assez... Enfin, ce qui me met mal à l'aise, et je vais faire un petit peu mon vilain petit canard, c'est que... on a un débat sur ces sujets-là. Il y avait un rapport sur la fessée la semaine dernière, où on est sur des sujets qui sont très importants. Donc je pèse mes mots volontairement. Ils sont très importants. Ouais. Mais quand je vois hier Erdogan parler à une petite fille et lui dire « tu vas mourir en martyr », ou le président chinois Xi Jinping se faire nommer dictateur à vie, quand on voit les grands enjeux de géopolitique des puissances qui sont en train de se construire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de...
Une focalisation, c'est des choses qui sont moins graves, qui vous semblent moins graves.
C'est un peu dérisoire. C'est ça qui est étonnant. Un peu comme si on discutait du sexe des anges, alors qu'il y a des enjeux supérieurs.
Aurore Berger.
Je suis désolée, c'est pas le sexe des anges dont on est en train de parler, c'est tout simplement de femmes qui, au quotidien, se font harceler.
Mais je comprends ce qu'il veut dire.
Non, mais donc, il n'y a pas à un moment des enjeux qui doivent être plus importants. Quand on a des femmes aujourd'hui qui n'osent... Quand on a des femmes aujourd'hui qui disparaissent de l'espace public parce qu'elles considèrent qu'elles n'y ont plus leur place, ou parce qu'on leur fait comprendre qu'elles n'y ont plus leur place, c'est les exemples que vous donniez. Quand on a des femmes qui renoncent à sortir, quand on a des femmes qui renoncent à prendre les transports en commun, et puis vous avez aussi une gradation qui existe. Oui. Si vous ne sanctionnez pas le harcèlement qui existe dans la rue, dans les transports, pourquoi derrière vous ne posez pas un interdit? En posant l'interdit, vous permettez aussi d'avoir une gradation, parce que le harcèlement peut conduire ensuite à des comportements qui sont de plus en plus graves, de plus en plus préjudiciables pour les femmes. Donc c'est pas une discussion en l'air,
je viens pas à votre secours, mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'en fait il y a effectivement des problèmes. Moi je suis heureux de vivre dans une société qui n'a pas à régler des problèmes de bombardement, ni des problèmes de petites filles qui doivent se mourir en martyr. Je suis heureux de vivre dans une société dans laquelle effectivement le problème posé est un problème qui me semble grave pour notre société, qui est celle de la violence ou de harcèlement faites aux femmes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois années de ça, je suis allé en Colombie. Et en Colombie, à chaque fois que j'ouvrais un journal, j'avais un meurtre par quasiment par page. Et je me disais, mon Dieu, quel pays incroyable. La moitié de ce que je lisais dans une petite colonne colombienne aurait fait la une en France. Bah, cette différence-là, je suis heureux de la vivre. Et en même temps, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas traiter ces problèmes des problèmes graves pour les sociétés, dans une société donnée qui est la nôtre.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Noémie Bonin.
Encore de multiples perturbations en France à cause de la météo. L'Hérault vient d'être placé en vigilance rouge pour neige, verglas. Dans les aéroports de Montpellier, mais aussi de Nîmes, les avions restent au sol. Certaines autoroutes sont fermées dans les Bouches-du-Rhône ou entre Orange et Narbonne. Attention aussi aux pluies verglaçantes cette nuit et demain matin de la région Rhône-Alpes à la Franche-Comté. Un skieur meurt en faisant du hors-piste aujourd'hui sur le domaine de l'Acclusaz en Haute-Savoie. Il est tombé sur 300 mètres. Il était âgé de 72 ans. C'est une affaire vieille d'une trentaine d'années. En passe d'être élucidée. Un homme avoue une quarantaine de viols depuis la fin des années 80 jusqu'à ses derniers jours. Âgé de 56 ans, il a été mis en examen cet après-midi, arrêté près de Maubeuge avant-hier. Il n'a jamais été condamné auparavant. Grosse prise de drogue ces derniers jours entre l'Espagne et la France. Plus de 2 tonnes de cannabis interceptées en 24 heures, c'est ce qu'affirment les douanes ce soir, pour un total de 17 millions d'euros. 3 hommes sont mis en examen. Et puis c'est un historien bien connu des étudiants. Pierre Milza est mort aujourd'hui à 85 ans. Il était considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du fascisme et de l'Italie. Il a écrit plusieurs manuels aussi avec son complice Serge Bernstein.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, animés ce soir par Anthony Bélanger. Cette magnifique tous n'est pas un jingle, hein, pas du tout, n'y croyez pas. En tout cas, voilà, on parle des premières lignes, hein, de la future loi présentée par Marlène Schiappa. C'était aujourd'hui, et notamment la contravention d'outrage sexiste et sexuel. Je rappelle que ça serait donc les gestes déplacés, les sifflements, les regards insistants, les remarques obscènes qui pourraient être désormais verbalisés par la police, d'une amende donc de 90 euros et majorée jusqu'à 350 euros. Audrey Goutard, vous vouliez juste réagir à ce que disait Rafik Smati.
Oui, non, effectivement, je voulais réagir sur le fait que quand vous êtes une jeune fille, alors par exemple une collégienne commence à prendre le métro ou le bus, le car, sortir dans la rue, etc. à partir de l'âge de 11 ans. De l'âge de 11 ans, vous en discutez avec toutes les filles qui vous entourent. De l'âge de 11 ans à l'âge de bon après l'âge adulte, après vous savez peut-être mieux vous faire respecter. Enfin toute votre adolescence, vous avez effectivement des types qui vous ennuient, qui vous harcèlent. Ça arrive régulièrement. Régulièrement, ça veut dire à peu près une fois par semaine. Ça construit une jeune femme, ça construit une femme. Quand vous êtes un garçon et que vous n'avez pas, on vous a pas donné les bons codes et que vous vous permettez effectivement de harceler une fille, de mal lui parler, d'être obscène, etc. Ça construit un homme et c'est ça qui crée la violence aussi dans les sociétés. Alors, et donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas simplement un fait divers, ça construit notre société et notre population. Donc c'est très important parce que ça se passe à la racine de notre éducation.
Rafik Smati.
Oui, c'est un sujet essentiel et c'est tellement essentiel d'ailleurs, je vais vous faire une confidence que j'en ai fait un livre.
Non mais tout à l'heure.
J'en ai fait un livre il y a quelques années. Donc c'est d'accord. Un sujet sur lequel je suis personnellement engagé. Mais ce dont je parle, c'est plus que la loi qui va être votée, c'est le débat que nous faisons autour de cette loi-là. Parce que, encore une fois, je suis désolé de me répéter, parce que c'est mettre en regard ce que nous sommes en train de nous dire par rapport à ce qui est en train de se faire dans le monde. Vous parliez de la Colombie tout à l'heure. Il y a une différence avec la Colombie, c'est que la Colombie ne nous menace pas aujourd'hui. Ce qui est en train de se construire dans certaines parties du monde, c'est un danger géopolitique mondial.
Ça n'empêche pas que par rapport même à la menace, d'avoir quand même une politique pour des
politique publique en France. Non, parce que
je dis qu'il faut. Non, je dis simplement que ce qu'il faut et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le débat public. Que la France et l'Europe même renouent avec l'idée de puissance. Oui. Parce que on devrait être, vous savez, dans les plateaux de télévision chinois et dans les plateaux de télévision russe, en ce moment, on parle de conquête. Comment on va conquérir le monde?
Ça n'empêche pas
que. C'est pas notre cas aujourd'hui en France.
Ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur l'égalité homme-femme. Mais ça n'empêche pas.
Évidemment. Mais ne pas faire de ce sujet-là le sujet de civilisation principale, alors que notre civilisation est menacée par ailleurs.
Que les Russes parlent de, comment dire, de conquête, gros parleux, petit faiseux, les Russes. Je vous rappelle quand même que la Russie, c'est le PIB de l'Italie, avec deux fois la population de la France.
Oui, puissance pauvre.
On se calme, les Russes parlent beaucoup, et au fond, ils se ruinent.
Je voudrais qu'on revienne juste sur ce débat, ce dont nous parlons.
C'est un débat de civilisation. Et donc, effectivement, c'est un débat de civilisation. On a le droit de se dire que dans une civilisation, dans un pays qui est le nôtre, a priori, qui a une visée civilisatrice, eh bien, ce type de débat doit être traité avant même de se demander si on conquiert le monde ou pas. Et de quelle façon, en plus.
Allez-y, Audrey, et après, je vois comment.
Vous nous avez pas interpellé tout à l'heure lorsqu'on parlait des SDF, etc. Alors, est-ce que c'est parce qu'on parle des femmes que vous considérez que c'est moins important?
Pourquoi question.
On va pas lui faire un procès d'intention.
J'ai commencé en disant,
faites un flashback de 10 minutes, que le président de la République avait eu raison d'en faire un sujet de débat national. J'ai commencé comme ça, oui ou non?
Oui, bien sûr.
Je le mets simplement en perspective par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde aujourd'hui et je.
Mais c'est là où on ne vous suit
plus. Et je m'inquiète.
C'est là où on vous a juste remarqué que vous n'avez pas mis en perspective d'autres débats.
Voilà, alors je voudrais juste.
Ou pas.
Alors, oui, exactement, ou pas. Alors, je voudrais juste vous montrer une chose. C'était la Une de Libération aujourd'hui. C'est qui publiait une photo avec la une des actrices, des cinéastes, des humoristes productifs avec ce titre. On a subi, on s'est tué, maintenant on agit, 130 femmes qui lancent un appel aux dons pour les associations venant en aide aux victimes de violences sexuelles. Un peu sous le modèle aussi d'actrices américaines. Aurore Berger, est-ce que c'est utile en sachant que dans le cinéma français, pour l'instant, il y a une sorte d'omerta qui avait même été dénoncée par Isabelle Adjani. Elle avait dit, en France, c'est les 3G, galanterie, grivoiserie, goujaterie. Est-ce que, voilà, il n'y a pas de poids, de mesure, là?
Mais évidemment que c'est utile, parce que c'est utile que toutes les femmes prennent la parole sur ce sujet, quelle qu'elle soit. C'est plus facile quand vous avez accès à une expression publique. Et elles y ont accès, et c'est ce qu'elles disent d'ailleurs. Elles ont une tribune qui est très intéressante en disant elles-mêmes, on a vu des choses et on n'a pas agi à ce moment-là. On a laissé faire ou on n'a pas osé s'exprimer sur ce qu'on vivait, pensant qu'on était peut-être les seules à le vivre. Mmh. Et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire état. Et moi, je ne juge pas les femmes qui n'ont pas osé ou n'ont pas pu ou ont été empêchées à un moment de prendre la parole. La parole a été prise, c'est très bien. Maintenant, on agit, c'est leur tribune. Et je pense que c'est une très bonne idée qu'au César, il y ait quelque chose de très fort qui soit porté.
Il y aura un ruban blanc, d'ailleurs, porté au César. Et dans un instant, on parlera SNCF, Monde Agriculture, Facebook. Enfin, il y a beaucoup de choses à venir. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active notre radar à bonnes affaires.
Ne cherchez pas plus loin. Les Happy Box Days de SFR sont prolongés. Jusqu'au 5 mars, la box starter est à seulement 4,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49€.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Attention, neige et pluie verglaçante. La neige persiste sur le Languedoc, l'Ardèche, les Cévennes. 5 à 20 cm en plaine supplémentaires d'ici demain matin, y compris dans l'agglomération de Montpellier. L'Hérault est d'ailleurs en vigilance rouge. On aura plus sur les hauteurs. Des pluies marquées prendront le relais en matinée. La neige remontera vers 800 mètres l'après-midi. Le vent d'autant soufflera jusqu'à 100 km à l'heure en région toulousaine, 130 sur le Lauragais. Attention aux vagues sur le littoral du Languedoc-Roussillon. De la neige aussi du Var aux Alpes jusqu'en matinée de demain. Attention aux avalanches. Entre le nord-ouest, le centre, la Bourgogne, la neige s'invite cette nuit, souvent 3 à 8 cm, plutôt 2 à 5 en région parisienne. Attention, après la neige, on aura des pluies verglaçantes en matinée, ensuite de la pluie qui s'espacera dans l'après-midi. On retrouvera des éclaircies sur un grand quart sud-ouest et il fera moins froid, 1 à 5 degrés du nord-est à la Manche l'après-midi, 9 à 17 au sud de la Loire.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Après le froid, c'est la neige qui s'invite dans le paysage. Les aéroports de Nîmes, Montpellier et Biarritz sont fermés. 57 départements en vigilance orange et les routes placées ce soir en vigilance rouge. Des perturbations aussi sur les routes, on ne les compte plus. Et en particulier dans le Var, hein, Tanguy Bocconi, vous êtes avec nous depuis le PC Mobilité de France Info.
Oui Emmanuel, avec des difficultés dans le sud-est sur l'A8 qui bouchonne pendant 2h30 sur 50 km entre Trètes et Brignoles. L'autoroute A54, elle est coupé dans les deux sens sur 25 km entre Salon-de-Provence et Saint-Martin-de-Crau. Et puis l'autoroute A9 est toujours fermée entre Orange et Narbonne, où les déneigeuses sont en action. La 75 est très chargée dans les deux sens entre Millau et Béziers. La 750 est totalement saturée entre Lacoste et Montpellier. Et puis le réseau secondaire est encore très chargé autour de Montpellier, Nîmes, Béziers et Alès, avec notamment 3 heures de ralentissement sur 30 km entre Nîmes et Alès. Et puis dans l'ouest, la neige est arrivée avec des bouchons autour de Saintes, La Rochelle, Niort, Poitiers et Angoulême. Je vous rappelle que la circulation des poids lourds de 7,5 tonnes est interdite sur l'A8 et l'A57 dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Même chose sur l'A75 entre Clermont et Montpellier. Et puis en Ile-de-France, la circulation des poids lourds et des autobus sera interdite tout à l'heure sur la route nationale 118 à partir de 22h.
Tanguy Bocconi en direct du PC Mobilité de France Info. Merci. J'ajoute que la Tour Eiffel sera fermée demain au public par précaution en raison de ce risque de verglas et de neige à Paris. Le monde rural, c'est chez moi. Déclaration de Marine Le Pen en visite au Salon de l'Agriculture. La présidente du Front National a dénoncé la disparition programmée du secteur. Un skieur est mort cet après-midi sur le domaine de la station de la Clusaz en Haute-Savoie. Il a franchi la corde qui délimitait le hors-piste. Il a fait une chute de plus de 300 mètres. Les secours n'ont pas réussi à le ranimer. Une première depuis 6 ans, la croissance a atteint l'an dernier le cap symbolique des 2% en France, grâce notamment à une accélération de l'investissement. C'est 0,1 point de plus que ce qu'avait été été préalablement prévu et annoncé par l'INSEE. À l'étranger, 4 casques bleus tués cet après-midi dans le centre du Mali dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. 4 autres soldats de la paix ont été grièvement blessés. Et puis le CIO qui lève la suspension du comité olympique russe. Elle était effective, cette suspension, depuis le mois de décembre en raison du scandale de dopage institutionnalisé en Russie. Le Brexit et Theresa May qui a vertement répliqué aujourd'hui au projet de traité de divorce tout juste dévoilé par l'Union européenne. La première ministre britannique assure qu'elle n'acceptera jamais les dispositions concernant l'Irlande du Nord qui menace, d'après elle, l'intégrité du pays. Il est 20h33 sur France Info, les informés suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT et ils se réchauffent au convecteur de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la députée des Yvelines, La République En Marche, Aurore Berger, Rafik Smati, entrepreneur et président du mouvement Objectif France, également Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions et Anthony Bélanger de France Inter. Alors tout ça, je vais pas vous le cacher, tout ça est bien embêtant parce qu'on avait tout prévu. Édouard Philippe annonce la méthode pour réformer la SNCF lundi. Les syndicats se réunissent mardi pour décider d'une grève pour le 22 mars. 22 mars, parfait ! Ça collait avec le 22 mars 68, début des protestations étudiantes, pile 50 ans après. Mais c'était génial. On avait déjà envoyé d'ailleurs des journalistes couvrir la fuite d'Emmanuel Macron à Baden-Baden. Et puis voilà. Ça s'est pas déroulé comme on l'avait imaginé. Les syndicats ont du mal à s'entendre. Ils attendent de voir ça, mais gardent le 22 mars en ligne de mire. On reste dans une sorte de ventre mou alors que le gouvernement cravache à coups d'ordonnances et d'arrêt du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés. Début des négociations syndicat-gouvernement demain. En attendant, chacun tente de trouver des angles d'attaque, comme par exemple le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Le problème numéro un, les usagers. Il y a plus de 5 millions de Français qui prennent le train tous les matins. C'est les grands absents du rapport Spinetta. C'est les grands absents de la réforme qui s'annonce. Il n'y a rien pour eux. Rien. On nous parle dette, et c'est vrai qu'à cause de la dette, il faut changer le statut de la SNCF. Mais il n'y a rien sur les investissements pour la sécurité, pour que les trains arrivent à l'heure, pour changer le matériel. Il n'y a rien de rien.
Alors Xavier Bertrand, ce matin sur France Info, Rafik Smati, qu'est-ce que vous en pensez de ça justement sur ces usagers? Est-ce que finalement il fallait en parler des usagers dans ce rapport Spinetta, dans ce qu'a dit Édouard Philippe, dans les futures négociations?
Je crois qu'il y a une réalité, c'est que ça fait des années que on dit il faut faire. Ça fait des années que j'entends des dirigeants politiques dire on va réunir les partenaires sociaux pour, alors que nous concrètement on élit des femmes et des hommes pour prendre des décisions et ils se défaussent sur les partenaires sociaux. Bon, là on a un gouvernement sur un sujet compliqué qui dit je prends mes responsabilités. On peut considérer, ce qui est mon cas, qu'il ne va pas assez loin sur un certain nombre de sujets, mais clairement il faut approuver la démarche parce que je crois que notre pays a besoin que ça bouge.
Alors juste une chose, Rafik Smati, on entend certaines personnes, même comme Eric Woerth, qui dit ça va pas assez loin. Ça veut dire quoi, ne pas aller assez loin concernant la réforme de la SNCF? Par exemple, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la SNCF?
Je crois qu'il y a une vraie question sur les retraites.
D'accord.
Des cheminots. Alors, qui vont être, a priori, sauf si madame la députée me dit le contraire, reportés au calendrier grec. Il y a en réalité plusieurs sujets. Le sujet de la libéralisation et de la libre concurrence.
Donc ça, c'est obligatoire,
ça,
par
c'est
l'Europe.
Bien. Et ça, il faut le faire. Nous,
oui.
C'est ça. Non, mais c'est bien en plus. Et ça va probablement aller dans le sens des usagers. Réformer le statut de cheminot, c'est bien, à condition qu'on aille au bout. Et la méthode est plutôt douce, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas à tous les cheminots. Ça va s'appliquer à ceux qui vont rentrer dans le circuit et c'est plutôt cohérent. La non-suppression de lignes régionales, c'était l'une de mes inquiétudes. Le gouvernement et le Premier ministre a levé cette hypothèque et ça, je l'apprécie parce que c'est un vrai sujet. Remplacer des lignes de TER par des cars dans des zones enclavées, je considérais que c'était une régression. Donc, je fais confiance au Premier ministre et j'espère qu'il ne nous trahira pas. Mais on n'est pas dans la grande réforme. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire, et notamment en voyant des Xavier Bertrand et autres, que ces gens-là ont été aux responsabilités, ils ne l'ont pas fait. Donc, on a une réforme, si elle passe, ça sera la plus grande qui aura été faite de tous les temps.
Alors,
donc, il faut l'approuver.
Aurore Berger, quand vous entendez ça, justement, vous avez l'impression d'être modéré, non, par rapport à ce qu'on dit de La République En Marche. On voit que ça peut aller plus loin. Est-ce que vous craignez, justement, on voit quand même des syndicats, même s'ils ont eu du mal à s'entendre, ils parlent quand même d'un mois de grève. Est-ce que ça ne vous inquiète pas par rapport à cette réforme de la SNCF.
Mais vous savez, à chaque fois que vous réformez, vous touchez potentiellement à des intérêts catégoriels. Mais si vous avez peur justement d'affronter ces intérêts catégoriels, dans ces cas-là, vous ne réformez pas du tout. On sait qu'il faut réformer la SNCF. Xavier Bertrand le dit d'ailleurs quand même dans son interview. 50 milliards de dettes, 3 milliards de dettes supplémentaires par an. C'est ce niveau d'endettement qui ampute nos capacités aussi à un moment d'investissement et qui fragilise de manière durable cette entreprise, qui est l'entreprise à laquelle on est attaché. C'est un service public, ça doit le rester. Et on y est extrêmement attaché. Mais on ne peut pas continuer sans le réformer. Sans réformer le statut des cheminots, ça me paraît légitime que ce soit pour les nouveaux entrants et pas pour ceux qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans parce qu'ils sont entrés aussi sur une promesse que leur a faite cette entreprise publique et donc l'État, qui est vous entrer avec certaines conditions. Par contre, pour les nouveaux entrants, il faut que ça cesse, parce que c'est obsolète aujourd'hui d'avoir ce type de statut de fait dérogatoire.
Anthony Béranger. Ce qui me fascine, c'est que vous avez raison. D'ailleurs, je pense que tout le monde sait, tout le monde connaît le constat. Faire rouler un train en France, ça coûte deux fois plus cher qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, qu'en Italie, qu'en Espagne. Deux fois plus cher, pour des raisons qui tiennent au statut des cheminots. C'est tout simplement parce que la masse salariale représente 50% du chiffre d'affaires de la SNCF.
Mais alors, on sait aussi beaucoup de choses aussi sur le statut des cheminots. On se rend compte quand on va dans le fond qu'il y a des choses aujourd'hui, ça se rapproche beaucoup du statut. Notamment pour la retraite, on le voit très bien. Choses aujourd'hui, ça se rapproche du statut.
On sait aussi la méthode, c'est-à-dire qu'on sait ce qui a marché à l'étranger. On sait qu'en Allemagne, dès 94, on a fait c'est-à-dire qu'on a abandonné le statut des cheminots pour que les nouveaux entrants puissent être un statut de droit privé. Mais ce qui me fascine, c'est que on sait aussi comment va faire le gouvernement. C'est-à-dire qu'il fait la même chose qu'il y a 6 mois de ça avec les ordonnances. Et les syndicats sont toujours aussi étonnés de la. C'est-à-dire qu'on connaît le constat, on sait ce qu'il va faire, on sait ce que d'autres pays ont fait, et on sait comment il va faire. Et vous avez quand même des syndicats qui sont comme des ronds de flanc à être étonnés que le gouvernement passe par les ordonnances, alors que c'est la méthode la plus efficace et que c'est la méthode qui en plus va marcher.
On va en parler de ça, mais il y a une chose quand même, Audrey Goutard, c'est que le gouvernement a dit en effet, il y aura pas de petites lignes qui vont fermer, mais il le dit toujours pas comment il va les rentabiliser.
Le gouvernement va déléguer donc aux régions, ce qui est assez habile. Et pour revenir à ce qui était dit précédemment, il y a quand même une donnée supplémentaire par rapport aux autres crises touchant les cheminots des années précédentes, depuis même en 1995, c'est que là, la population est vraiment du côté du gouvernement. À 70% des Français sont pour une réforme et n'auront pas, et c'est ce que les syndicats même sympathie. Parce que jusque-là, les Français étaient complètement du côté des cheminots, ont accepté des grèves qui étaient interminables, alors que là, aujourd'hui, je pense que les syndicats sentent que la donne n'est plus du tout la même.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, c'est Noémie Bonin.
Déjà 20 cm de neige à Montpellier et ça devrait continuer. L'Hérault est placé en vigilance rouge ce soir par Météo France. 57 départements restent en vigilance orange. Les perturbations gagnent désormais le nord et l'ouest du pays. Cette météo de multiples conséquences sur les transports. En Île-de-France, par exemple, la fameuse N118, symbole de l'énorme pagaille au début du mois, est interdite pour les camions et transports en commun à partir de 22h ce soir. Le chiffre fait froid dans le dos. Une quarantaine de viols reconnus par un seul homme dans le Nord, mis en examen cet après-midi. L'affaire est colossale. La police travaille dessus depuis la fin des années 80. Une quarantaine de camions chargés d'aide humanitaire attendent pour entrer dans la Ghouta orientale en Syrie. Mais depuis samedi et la trêve demandée par l'ONU, il n'y a toujours pas d'autorisation du régime pour se rendre dans les zones assiégées. Malgré quelques instants de répit, hier, les bombardements se sont encore poursuivis aujourd'hui. Plus de 600 civils ont été tués depuis 10 jours. Et puis Strasbourg en difficulté ce soir face au petit club de Chambly. Il y a toujours 0-0 en seconde période de ce quart de finale de Coupe de France. À 21h05 ce soir, l'OM affronte de nouveau le PSG à 3 jours après sa défaite en Ligue 1.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, un mot encore à propos de la SNCF, puisque les négociations commencent demain entre le gouvernement et les syndicats dans une chouette ambiance. Une chose quand même, Aurore Berger, c'est que Emmanuel Macron n'avait pas parlé d'ordonnance concernant la réforme de la SNCF. Ça veut dire que maintenant, ça va devenir une habitude, quel que soit le sujet ?
Pas qu'est-ce que soit le sujet. Typiquement, sur la réforme du logement, sur la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage, sur probablement la réforme des retraites, sur ce qu'on a eu sur la réforme de l'enseignement supérieur. Enfin, on a quand même un certain nombre de textes qui sont des projets de loi qui sont déposés. Après, pour avoir vécu ce qui s'est passé sur les ordonnances, sur la question de la réforme du droit du travail, ça n'a pas empêché qu'on ait un débat à l'Assemblée nationale.
Et pourquoi le faire d'ailleurs alors là, pourquoi faut aller si vite, là, pour ça?
Parce que je pense qu'on a une nécessité qui est d'aller vite sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres. Vous avez vu qu'on lance quand même en parallèle des très grands chantiers de réforme. Ça démontre, je pense, la détermination qui est la nôtre à les faire aboutir. Mais sur ce sujet-là, ça me paraît assez légitime que ce soit à un moment le gouvernement qui s'en empare. On va en débattre à l'Assemblée puisqu'on a à la fois, on a deux débats. On a un premier débat puisque c'est des lois d'habilitation aux ordonnances. Puis on aura un débat au moment de la ratification. Donc on aura quand même un Parlement qui s'en saisira, qui en débattra, mais que ce soit confié au gouvernement sur la réforme d'une entreprise publique, moi, ça ne me gêne pas du tout.
Rafik Smati.
Oui, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que tout va dépendre du contrat que le gouvernement, que l'État passera avec les opérateurs privés. On parle des lignes régionales qui sont non rentables, etc. Et là, ça va être très intéressant et très important, parce que le gouvernement et l'État, et la SNCF, et, enfin non, pas la SNCF, l'État, pourra dire à un opérateur privé, je te mets des trains sur Paris-Lille, en contrepartie de quoi tu me fais tous les fonds de Valais-Alpine. C'est-à-dire que ça fera partie du deal.
C'est pas rentable pour eux, ils vont pas le faire.
Oui, mais ça peut être rentable dans une globalité, justement. Parce que si on leur donne que Paris-Lille, ça n'a aucun intérêt, tant qu'à faire, autant que la SNCF le garde. Et le contrat qui sera passé, justement, avec les opérateurs privés sera absolument essentiel, parce que c'est ça qui va déterminer la viabilité et la durabilité de cette mise en concurrence.
Anthony Béranger.
Par ailleurs, je trouve il est très tentant, quand même, pour un certain nombre de syndicats, d'accepter ce qu'ils réclament depuis très longtemps, qui est, on l'a bien vu d'ailleurs, il y a un jeu sur la dette de la SNCF. Je rappelle que dans tous les pays européens où cette réforme du ferroviaire a été faite, la dette a été reprise par les États. C'est le cas de la Deutsche. C'est le cas en Italie aussi, c'est le cas en Espagne. Les dettes sont reprises par les États à chaque fois qu'un accord est trouvé sur le statut des cheminots en Allemagne en 94, en Italie en 92. C'est toujours la même histoire. Et c'est vrai que c'est très tentant pour un syndicat que de pérenniser l'avenir de son entreprise. En plus, a priori, pour l'instant, les élections professionnelles se passent sur des gens à qui on dit vous allez conserver votre statut. On va retirer la dette de votre entreprise, vous allez pouvoir à nouveau être fier de votre boîte, et en plus les Français aiment le train. Il y a une partie des syndicats à qui ça va très bien de grommeler et en fait de laisser le gouvernement prendre ce type d'ordonnance.
Allez, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler puisque les négociations ne commencent que demain. Et maintenant, on va faire notre petit point agriculture du soir. Il va falloir qu'on fasse un petit jingle d'ailleurs, puisque figurez-vous qu'Edouard Philippe, lui, il en est à son deuxième jour de visite au salon de l'agriculture. Demain, il y retournera de nouveau. Vous savez, un peu comme le futur acheteur d'un appartement, il n'arrête pas de répéter. Je suis pas sûr. Voilà. C'était au tour de Marine Le Pen d'arpenter les allées et de poser à côté des bovidés. Alors, gros succès pour elle l'année dernière, plus discret aujourd'hui. Elle a entamé le refrain du désespoir de la femme de la terre face à un président qui serait incapable de répondre aux attentes des agriculteurs, Marine Le Pen.
Ah, il essaye, qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a pas de qualité, il faut bien qu'il y ait de la quantité, quoi. Donc on multiplie les heures, particulièrement quand on n'a rien à dire.
Voilà, Marine Le Pen, elle a été huée. Audrey Goutard, c'est vrai que c'est étonnant, mais hier on a parlé de Laurent Wauquiez, qui lui était au sein de l'agriculture. Il a eu à peu près aussi les mêmes arguments sur le côté le monde rural, c'est moi.
Ah oui.
Voilà, aujourd'hui.
Ben oui, c'est-à-dire qu'ils se positionnent tous, chaque politique a senti qu'il avait l'intérêt de se positionner auprès du monde agricole, parce qu'il y a tellement d'enjeux actuellement, tellement de crises, et sachant aussi, une fois de plus, que les Français aiment le monde agricole, apprécient énormément les paysans, même s'ils ne sont pas toujours finalement très solidaires d'eux, mais en tout cas, ils les aiment. Ils aiment l'image d'Épinal, etc. Donc, chacun veut s'approprier, effectivement, cette image. Et puis, c'est vrai que notre président a tellement une image du Parisien que c'est facile de jouer en contre.
Voilà. Il faut rappeler aussi juste une chose, c'est au niveau des voix dans le monde agricole. Au premier tour, François Fillon avait fait 41%, Marine Le Pen 20%. Et ensuite venait Emmanuel Macron. Donc c'est quand même un domaine qu'elle a vraiment cultivé.
Qu'elle a cultivé comme Fillon avait cultivé aussi. Il avait passé un an dans les campagnes avant même le début de la campagne présidentielle. Donc effectivement, c'est leur monde. Il n'y a presque plus aujourd'hui de monde ouvrier. Le nouveau monde paupérisé, c'est le monde agricole.
Je sais bien que tout le monde plaint les paysans, tout le monde plaint l'agriculture française, tout le monde. Je comprends, mais il y a un moment où il va falloir que quelqu'un m'explique. Moi, dans ma vie, qui n'est pas si longue, j'ai quand même connu la France France, premier pays exportateur mondial de produits, enfin deuxième exportateur mondial de produits agricoles, premier exportateur européen. Aujourd'hui, on est à la troisième place derrière les Pays-Bas, un pays 13 fois plus petit que nous. Donc un jour ou l'autre, j'aimerais bien qu'on m'explique la ruine de l'agriculture française à l'aune du succès de l'agriculture néerlandaise ou de l'agriculture allemande. L'Allemagne qui est un pays qui a un tiers plus petit que nous, eh bien, est le premier exportateur européen de produits agricoles. Donc, je sais bien qu'on va me répondre que l'Allemagne produit des produits de merde,
de basse qualité,
et les exporte. Ouais. Ce n'est pas vrai. Bah. C'est de là et de Pologne que viennent l'essentiel de nos produits bio. Donc, il y a un moment où la cogestion de la FN, de l'agriculture française entre la FNSEA et l'État, qui n'a rien fait pendant 30 ans et qui a laissé se ruiner l'agriculture française, aussi, et la FNSEA qui a pu éventuellement pousser, par exemple, certains agriculteurs ou éleveurs à faire de la quantité pour rien, puisqu'en plus on perd en part de marché. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un vienne m'expliquer, un économiste, un agriculteur ou quelqu'un à la FNSEA, comment se fait-il qu'en 30 ans on a ruiné l'agriculture française.
Aurore Berger, il y a quand même ce que dit Marine Le Pen. Elle dit bon, le monde rural c'est chez moi, etc. C'est un peu caricatural, mais elle surfe aussi sur les accords, aussi les fameux accords de libre-échange. Il y a eu des mobilisations assez fortes des agriculteurs contre le Mercosur, contre le CETA. Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'est pas l'homme de ces accords, et c'est là où il y a le frottement entre finalement ce monde agricole et lui.
Déjà, c'est pas l'homme de ces accords, tout simplement parce que les accords ont préexisté, étaient enclenchés avant qu'il arrive. Ensuite, parce que les difficultés de l'agriculture française sont pas liées à un accord sur le Mercosur qui n'existe pas encore.
Ils disent que ça va en rajouter, tout simplement.
Oui, mais enfin, à un moment, il faut aussi dire la vérité. Moi, j'ai passé la journée d'hier au salon de l'agriculture. J'en ai parlé avec les éleveurs, notamment. Aujourd'hui, 70% de la viande qu'on consomme hors de notre cercle familial, elle est importée. 70%, vous allez au restaurant, c'est de la viande qui n'est pas de la viande française. Et ça, c'est avant l'accord avec le Mercosur.
Mais pour eux, ça devrait rajouter à ça.
Non, mais très bien. Mais d'abord, on peut peut-être régler l'existant. On peut peut-être se dire qu'en effet, il y a une difficulté avec l'agriculture française qui est pas liée à des accords de libre-échange. Et c'est pour ça aussi qu'on a mené les états généraux de l'alimentation. Et on les mène avec qui? On les mène avec la grande distribution, parce qu'on sait qu'on a une difficulté avec certains acteurs de la grande distribution, clairement qui ne jouent pas le jeu et qui ne payent pas un prix juste aux éleveurs. Il y en a d'autres qui jouent le jeu, clairement. Il suffit de regarder, vous savez, au sein de l'agriculture, qui sont les personnes, les entreprises qui sont représentées, quels sont les stands qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Ça en dit aussi beaucoup sur les relations qui existent avec nos agriculteurs.
Une dernière chose, je dirais que la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir d'élus locaux. Oui, parce que figurez-vous, quand on a...
Justement, c'est son problème.
Non, justement. En matière d'agriculture, en l'occurrence, il n'est pas comme ça, entouré de gens qui viennent lui porter la bonne parole, lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire, et lui dire, mais ne prenez pas cette décision-ci, ne prenez pas cette décision-là, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ceci. Non. C'est une chance, d'une certaine manière, de ne pas avoir de grands élus. Ça a été même le cas pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Le fait de ne pas avoir de grands élus dans le Grand Ouest lui a permis de prendre une décision un petit peu plus facilement.
Il en avait certains, notamment Le Drian.
Enfin, c'est une chose d'avoir un élu dans son gouvernement et d'avoir l'ensemble d'une région qui... Bon. Donc, en matière d'agriculture, c'est une chance, parce que ça lui permet de réfléchir hors sol, d'une certaine manière. C'est-à-dire, sans avoir à subir les influences des uns et des autres, qui sont paralysantes en France, dès qu'il s'agit d'agriculture.
Alors, bah, écoutez, on va parler dans un instant, l'info à 20h50, c'est Noé Bonin.
Plusieurs autoroutes fermées ce soir à cause de la neige, la 54 dans les Bouches-du-Rhône, la 9 aussi entre Orange et Narbonne. Les aéroports également de Montpellier et Nîmes sont à l'arrêt. Les intempéries se déplacent désormais du sud vers le nord et l'ouest de la France. 57 départements sont en vigilance orange, l'Hérault est en rouge, la neige continue de tomber. Nouveau drame en montagne. Aujourd'hui, un skieur de 72 ans est mort près de la station de la Clusaz en Haute-Savoie. Il faisait du ski hors piste et a glissé sur plusieurs centaines de mètres. Après 30 ans de traque, un violeur en série mis en examen cet après-midi dans le Nord. Il évalue lui-même le nombre de ses victimes à une quarantaine. Il explique avoir agi sous le coup de pulsions qu'il n'arrivait pas à contrôler. C'est ce que rapporte le procureur de Valenciennes. Bertrand Cantat continue de faire réagir. Plus de 60 000 personnes ont signé une pétition qui demande l'annulation de son concert dans un festival prévu dans la Manche au printemps. Le texte évoque les coups mortels qu'il a portés à sa compagne Marie Trintignant en 2003. Avec ce concert, vous banalisez les violences faites aux femmes, affirme la pétition lancée il y a 10 jours. Et puis le PSG donne des nouvelles de Neymar. Le joueur sera opéré en fin de semaine au Brésil, affirme le club ce soir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Encore un mot à propos du salon de l'agriculture. Rafik Smati, qu'est-ce que vous en pensez de ces... On a entendu Marine Le Pen tout à l'heure qui dénonçait Emmanuel Macron, qui serait l'homme soumis au CETA, au Mercosur. Laurent Wauquiez a dit exactement la même chose hier. Est-ce que pour vous, il y a une, vraiment une mésentente entre le président de la République et les agriculteurs aujourd'hui?
Moi, j'ai et le monde rural même. J'ai pas envie de monter les uns contre les autres. Je pense que c'est une grosse erreur que de dire que, comme le font certains d'ailleurs, qu'il y a une France des villes et une France des champs. Non, il y a une France des villes et elle fait la grandeur de la France. Et puis il y a une France des champs, des terroirs, des paysages, qui fait aussi la grandeur de la France. C'est pas l'une contre l'autre. Et alors, on peut pas reprocher au président de la République d'être plus urbain. C'est son profil. Maintenant qu'il fasse le job.
Il est beaucoup moins urbain que Laurent Wauquiez. Je pense que Laurent Wauquiez, dans son enfance, la seule ferme que Laurent Wauquiez a eue dans son enfance comme Marine Le Pen, c'est le salon de l'agriculture.
Non, mais c'est pas le sujet. Faites pas une obsession sur Laurent Wauquiez, c'est pas le sujet. Maintenant, le vrai sujet aussi, et vous en parliez tout à l'heure, c'est le Mercosur, c'est les accords de libre-échange. Alors, je vais peut-être être un petit peu hors sujet, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas partir du postulat que les accords de libre-échange, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui peut potentiellement être bien.
Maintenant, vous comprenez aussi l'inquiétude finalement de certains agriculteurs et producteurs.
Justement, ces accords sur les élevages bovins, notamment, c'est un vrai sujet. Et il y a des amendements qui doivent y mettre fin. Mais partir du postulat que c'est une mauvaise chose. C'est déjà un aveu d'échec et une façon de se replier sur soi.
En plus, une petite chose qui me fait quand même beaucoup rigoler depuis qu'on parle de la viande argentine, c'est qu'on essaie de nous convaincre que la viande argentine est de mauvaise qualité, alors que quand même, excusez-moi, mais enfin tout le monde sait que la viande argentine part d'une certaine réputation, qui est quand même la réputation d'être parmi les meilleures viandes.
Comme le bœuf de Kobe aussi, il y a un énorme scandale il y a 2 ans de viande toute pourrie.
C'est la viande brésilienne.
Mais
non, ce que je veux dire, c'est que donc du coup, ils sont un petit peu contre. Enfin, je veux dire en contre.
Qualité, le problème c'est que eux, c'est pas ça leur souci. Ils craignent d'avoir une viande finalement aussi trop en concurrence.
Non, mais bien sûr.
D'ailleurs,
je vous rappelle que le premier exportateur mondial de viande, c'est pas ni l'Argentine ni le Brésil, c'est l'Inde. L'Inde qui n'en mange pas, qui en exporte beaucoup et qui est un vrai concurrent pour le coup parce que qui le deviendra vraiment. Peut-être que même le problème ne se posera pas avec le Mercosur, mais avec le marché intérieur. Sortons du problème. Juste, je fais remarquer que quand on me dit que la viande argentine ou uruguayenne est de très mauvaise qualité, qu'elle est botoxée ou que j'ai de nouveau.
Non, elle est nourrie aux OGM. Excusez-moi, c'est pour ça que je m'étais trompée. Effectivement, le scandale, vous avez raison, le scandale était au Brésil. Et concernant la viande argentine, le problème, effectivement, c'est que c'est une viande d'animaux nourris avec des OGM. Et effectivement, ça pose un problème, puisque nous avons des règles, en principe, qui font qu'on ne peut pas consommer de viande nourrie avec des OGM.
On voit aussi, Aurore Berger, on voit finalement le mot qui revient tout le temps, ce salon de l'agriculture. C'est le mot Europe, comme souvent on parle, on dresse souvent agriculteurs contre Europe ou Europe contre agriculteurs. Est-ce que là aussi, c'est là aussi où il y a du travail à faire? C'est-à-dire, à un moment, cette PAC, politique agricole commune, il y a un moment, il faudra quand même en parler sur la France. Quand Jacques Chirac, quand il l'a mise en place, est-ce qu'elle n'était pas trop favorable pour les plus gros? Il y a quand même toute une réflexion à avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va vers ça ou on ne la touche absolument pas?
Non, mais il ne faut pas opposer agriculteurs et PAC, tout simplement déjà parce que eux-mêmes, et agriculteurs et Europe, c'est parce que eux-mêmes vous disent qu'ils sont extrêmement attachés à l'Union européenne. Ils savent que la PAC a protégé l'agriculture française. C'est parce qu'on a eu la PAC qu'on a pu avoir une agriculture française qui a continué à se développer. Est-ce qu'elle peut être corrigée? Est-ce qu'elle a peut-être des défauts? Oui. Et ça, évidemment, on va y travailler. On a une nouvelle carte aussi qui est sortie de ce qu'on appelle les zones défavorisées qui vont recevoir des soutiens et des subventions. On a d'ailleurs plus de communes françaises qui sont entrées que de communes qui sont sorties, de zones qui sont sorties. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais quand vous parlez aux agriculteurs, contrairement à ce que dit Marine Le Pen justement sur ce sujet, eux, ils ne s'opposent pas du tout à l'Union européenne parce qu'ils savent ce que ça leur a apporté et ce que ça leur apporte encore aujourd'hui.
Une chose, juste pour terminer, hier on a appris par une dépêche AFP que Nicolas Hulot était allé au salon de l'agriculture.
Discrètement.
Sans les caméras, rien du tout, pour rencontrer la FNSEA. Oui. C'est bizarre, non, comme démarche? Pourquoi il y va comme ça, sans caméra, discret?
Votre avis.
Je ne sais pas, je vous pose cette question. Vous savez, je suis un peu naïf, moi. Voilà, c'est pour
Je pense qu'effectivement, les relations en ce moment entre Nicolas Hulot et le monde rural sont bonnes lorsqu'il s'agit du monde rural bio, sont moins bonnes lorsqu'il s'agit minoritaire. Et sont moins, évidemment, c'était prendre le risque de se balader et de recevoir des œufs dans les allées du salon de l'agriculture. Après, y aller, néanmoins, c'est courageux parce qu'il y a été. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas été.
La seule décision qui va, détails sur le glyphosate. Moi, je suis à jamais reconnaissant d'avoir pris cette décision sur le glyphosate.
Mais Orange, vous savez la popularité de Nicolas Hulot, donc c'est pour ça qu'on y fait aussi attention.
Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y allait. Il s'exprimait dans le JDD de manière très claire au moment de l'ouverture du salon, de manière à rappeler l'objectif de la France, qui est d'avoir un mieux disant. C'est très. Vous savez, au départ, l'Union européenne, c'était un renouvellement pendant 15 ans du glyphosate. On a obtenu que ce soit pendant 5 ans. Et nous, en France, l'objectif, c'est que ce soit à 3 ans. Et personne ne peut être en opposition avec un objectif qu'un objectif de santé publique.
Allez, ça doit se terminer, les Informés de France Info. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être passé. Merci, Rafik Smati. Merci, Audrey Goutard. Anthony Bélanger, alors, on vous retrouve demain sur France Inter à 6h45, puis ensuite à 8h15, et même à l'Institut du Monde Arabe à Paris, c'est ça?
Oui, c'est ça, le soir, à 19h, on se rend public. On va parler de la Tunisie. C'est un débat passionnant, c'est gratuit. Venez nombreux.
Et bien sûr, voilà, on y sera en tout cas, mais bon, il faut aussi écouter les Informés, bien sûr. Et juste après, on reçoit Jean-François Killy. Bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Tout est politique au programme ce soir.
Nous reviendrons sur la passe d'armes entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen au Salon de l'agriculture. Nous reviendrons sur la loi harcèlement, la SNCF, la réforme toujours avec Alexandra Dublanche du Républicain, Rachid Temal du Parti Socialiste, Jérémy Pelletier de la Fondation Jaurès et Yael Gauss de France Info.
Bien sûr, voilà, indispensable. Allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.